monter une start-up en profitant du chômage, je trouve que c'est une hérésie, quoi. Step numéro 1, fais en sorte de gagner ta vie. Step numéro 2, crée une entreprise profitable qui sert ton cercle proche. Step numéro 3, tu t'intéresses aux ours polaires, à tout ce que tu veux. Tu t'es déjà mis à l'abri toi, t'as mis à l'abri ton cercle proche, et ensuite tu peux réfléchir à la fin dans le monde, quoi. L'entrepreneur est de base un spéculateur, parce qu'il prend des risques. Alors que la qualité d'un investisseur se mesure plus à sa capacité à gérer son risque qu'à générer du rendement. Confucius dit dans cette idée forte justement qu'un homme a deux vies. Sa seconde vie commence quand il comprend qu'il n'en a qu'une. Oh, ma seconde vie a commencé quand je suis devenu libre, et je suis devenu libre à partir du moment où j'ai fait le choix de devenir entrepreneur en prenant un aller simple pour Tallinn et en créant ma boîte là-bas. Je sais assez facilement générer plus de 10 000 euros par mois juste avec un téléphone et une connexion internet, même avec des gens qui ne me connaissent pas. Et à partir du moment où t'as fait ça, tu sais que t'es libre jusqu'à la fin de ta vie. Il faut aussi accepter, je pense, de prendre des raccourcis que d'autres considéreront parfois comme de la triche. Et les start-upers, même ceux qui ont exit à 1 million d'euros, en général, ils ne possèdent plus que 3% de leur boîte. Et sans déconner, 3 millions d'euros en ligne, on les fait vite, quoi. Il ne faut pas avoir d'aversion à la perte dans le business, tout comme il ne faut pas avoir d'aversion à la perte dans l'investissement. En fait, c'est vraiment mettre l'émotionnel de côté, regarder uniquement tes chiffres. Est-ce que le trade-off vaut le coup? Oui, go.
En termes de chiffre d'affaires, où est-ce que tu te situes?
En cumulé les différentes boîtes, on est au-dessus.
L'argent devrait être un outil au service de votre épanouissement. C'est un excellent esclave, mais un très mauvais maître. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain, le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Au programme, chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles, de l'investissement et de l'entrepreneuriat aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour vous transmettre les meilleurs enseignements. Dans chaque épisode, je vous emmène avec moi découvrir les principes, méthodes et outils qui vous permettront d'atteindre la liberté financière. Mener une vie riche n'a jamais été aussi accessible, alors pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et pour aller plus loin, retrouvez des ressources complémentaires en description. C'est parti!
Est-ce que selon toi, on peut tous devenir entrepreneurs?
Je dirais que non, d'abord, parce que tout le monde n'est pas prêt à sortir des sentiers battus, et que pour être entrepreneur, il y a déjà une première qualité qu'il faut avoir, qui est de savoir nager dans l'incertitude. Mmh. Il faut aussi accepter, je pense, profondément de prendre des raccourcis que d'autres considéreront parfois comme de la triche. Et ça, c'est essentiel. De savoir prendre des raccourcis, de savoir ouvrir des portes où il y a marqué « ne pas ouvrir », de savoir aller à l'encontre de ses pairs, d'entreprendre parfois des dynamiques qui ne sont pas prestigieuses. On reviendra peut-être sur cette notion de prestige et de profit, notamment si on parle des startups VS l'entrepreneuriat traditionnel. Et de ce point de vue-là, tout le monde n'est pas prêt à prendre ces risques-là, et aussi tout le monde n'a pas forcément le souhait de faire ça. Et le monde, je ne sais pas s'il fonctionnerait qu'avec des indépendants, peut-être.
C'est Naval qui...
Naval Ravikant,
qui disait on pourrait avoir un milliard, enfin, ouais. Autant de one-person business que d'habitants.
Oui, mais pas dans une société socialiste. le fait que... Aujourd'hui, en tout cas, je ne pense pas qu'en France ce soit possible, dans le sens où on n'est pas éduqué à être responsable. Et profondément, pour être entrepreneur, il faut être prêt à prendre toutes les responsabilités de sa vie et de se persuader du fait qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, même si fondamentalement c'est faux, on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive, mais il faut se persuader de ça pour entreprendre et pour bien réagir à tout ce qui nous arrive, parce que on ne peut pas prédire tout ce qui nous arrive, il va nous arriver beaucoup de choses très différentes. Et il faut faire avec, apprendre de ses erreurs, idéalement apprendre des erreurs des autres. Et cette incertitude-là, tout le monde n'est pas prêt à la vivre, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir la vivre aussi. Tu vois. Moi, quand je me suis lancé, je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas de famille à charge, j'avais besoin de très peu de ressources pour me lancer. Et plus tu avances dans la vie, plus tu es loqué finalement par un niveau de vie, par un système dans lequel c'est difficile d'évoluer et de gagner sa liberté. Voilà. Donc de ce point de vue-là, ça dépend de tes hypothèses de départ, mais ce n'est en considérant les hypothèses de départ comme celles étant celles dont j'ai profité en France aujourd'hui, je pense que c'est difficile parce que tout le monde n'est pas fait pour ça, tout le monde n'est pas prêt à prendre ces risques-là, et même si fondamentalement c'est possible pour tout le monde ne le fera pas et tout le monde n'est pas fait pour le faire et tout le monde ne le vivra pas bien s'il s'y expose.
Et donc selon toi, une des caractéristiques pour être un bon entrepreneur ou à minima pouvoir se lancer, c'est la prise de risque, cette volontaire de prendre des risques.
Oui.
Quel type de risque il faut être prêt à prendre ?
Le regard des autres. Typiquement, tu ne peux pas être un entrepreneur si tu ne vends pas. Et la vente, en France notamment, c'est assez mal perçu. Fondamentalement, j'aime bien la définition de Marc Cuban au sujet de la vente, qui est « vendre, c'est aider quelqu'un ». Parce que c'est ce que tu fais, et si tu es en entrepreneur, je préfère la définition autrichienne du mot entrepreneur, qui est en gros créateur de valeur. Si tu es entrepreneur, tu vas chercher à créer de la valeur. Et d'ailleurs, tu vas être rémunéré en proportion de la valeur que tu crées. Mais ça, c'est pas évident pour tout le monde. Tu vas forcément te heurter à des noms. Et si tu as été éduqué d'une manière où tu n'as jamais été frustré, ça va être très difficile de t'exposer aux noms. Ensuite, tu vas bosser parfois pour aucun résultat. Et ça, c'est très dur aussi pour beaucoup. Tu as besoin aussi de gratification différée, finalement. Tu as besoin d'être sensible à la notion de gratification différée. Si tu n'es pas prêt à travailler, entre guillemets, dans le vide, à itérer énormément avant d'avoir des résultats, ça va être très dur d'entreprendre, contrairement au simple fait de directement échanger une heure de son temps contre de l'argent. Mmh. Et cette notion d'itération, elle est clé dans l'entrepreneuriat. Après, je pense que ce n'est pas génétique, c'est épigénétique, c'est quelque chose que tu apprends. Moi, cette notion d'itération, elle m'est venue avec le sport à haut niveau. J'étais sportif de haut niveau en judo quand j'avais 15 ans. Et en gros, au judo, tu as une notion japonaise qui s'appelle l'uchikomi. Tu dois répéter peut-être 10 000 fois ton mouvement, ton tokiwaza, ta technique clé, avant de la faire parfaitement d'une manière... C'est un petit peu intuitif.
Mmh. Enfin, c'est un réflexe. Quoi.
C'est ça. Et aujourd'hui, toi, la manière dont tu bosses, j'imagine qu'il y a plein de choses qui sont devenues des réflexes que tu as dû apprendre à la base. Et moi, c'est pareil. Tu vois, c'est pas une question. Enfin, il y a des choses qui sont devenues très naturelles pour moi, qui pour un entrepreneur débutant ne le sont pas. Et ça, c'est l'itération. Mais pour itérer, au début, quand tu itères, tu itères dans le vide. Et ça, c'est très, très dur. C'est très frustrant. Ouais, ça en fait partie aussi, le fait d'être sensible à la gratification différée.
Ouais, donc finalement, et je pense qu'on y reviendra plus tard dans l'épisode, la gratification différée, c'est vachement lié à l'investissement et la vision long terme et la capacité à se projeter. Ce que je dis souvent, c'est l'entrepreneuriat, c'est la capacité à faire la même chose ou à minima à répéter une certaine action suffisamment longtemps sans en obtenir les résultats, sans en voir les résultats à minima rapidement.
Et le podcast en est un très bel exemple.
Exactement. Surtout un podcast dans le sens où les formats audio seulement, les plateformes audio, elles n'ont pas un algorithme qui va particulièrement pousser les contenus. C'est très difficile. Ça prend énormément, énormément de temps pour être poussé par Apple Podcast ou Spotify. Enfin voilà, les grandes plateformes. Là où d'autres plateformes algorithmiques, elles peuvent. Il y a un potentiel de viralité un petit peu plus important, exactement. Mais c'est pour ça, effectivement, moi je pense qu'un bon investisseur, et je pense que c'est une thématique que je voudrais aborder avec toi un petit peu plus loin dans l'épisode, un bon investisseur a des qualités qui sont utiles à l'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat apporte des qualités qui sont utiles à l'investissement. Je pense que là-dessus, tu me rejoindras.
Là-dessus, tu prêches un convaincu.
Ouais. Surtout toi avec qui a les deux casquettes. Et dans ce cas-là, comment est-ce que toi, quand tu t'étais lancé, donc on parle de créer de la valeur. Ok, je suis un particulier, j'ai envie de me lancer, mais je ne sais pas quoi faire, quel problème résoudre. Et encore là, je donne un petit indice, il faut résoudre un problème, mais comment identifier là où je peux apporter de la valeur dans mon environnement, ou même, je veux dire, de manière générale, à la société.
Je pense qu'il faut aller, justement, on en revient souvent à la notion de frustration, c'est où est-ce qu'il y a quelque chose qui me frustre. Richard Branson en parle très très bien quand il parlait justement du fait que, tu vois, il avait créé sa maison de disques qui tournaient bien, et il se retrouvait à pas mal voyager du coup.
Virgin.
Ouais. Il se retrouvait à pas mal voyager du coup, et c'était super frustrant pour lui de prendre British Airways parce que le service était pourri, les vols étaient c'était long, il mangeait mal, etc. Et il s'est dit, faut que je crée une compagnie aérienne pour résoudre cette frustration qu'est ces vols, enfin ces compagnies aériennes. Et ça a été le premier à introduire d'ailleurs les vidéos dans les longs courriers.
Les films, ouais, les petits écrans,
ça va. Une première classe, ce genre de choses. Au standing où ça y est. Et ce qu'il va faire du coup pour créer, et ce qu'il va faire pour créer cette première compagnie aérienne, parce qu'il va pas directement acheter un Boeing, etc. Il va appeler Boeing en leur disant, prêtez-moi un de vos avions pour 10 vols, et si ça marche, je vous en achèterai. Mm-hmm. Donc il va avoir cette dynamique presque effectuelle, comme le dit du coup un prof de l'EM Lyon avec son bouquin Effectuation qui est très bien. C'est quelles sont les ressources que j'ai à ma disposition. Enfin, j'ai un téléphone, je peux appeler Boeing pour qu'il me prête un avion. Et peut-être
tout le monde peut pas appeler Boeing pour qu'il te prête un avion, tu t'appelles Richard Branson.
Ouais, mais à l'époque, il n'était pas au niveau où il en était. Mais il avait quelques capitaux, mais il n'avait pas. Il a eu l'audace de le faire. Mm-hmm. Et aujourd'hui, typiquement, nous, dans les situations dans lesquelles on est, avec le nombre de gens qu'on peut toucher, avec les propos que l'on a, les médias dont, qu'on a à notre disposition, c'est, y a plein de choses, il y a plein de mouvements qu'on peut faire, mais qu'on ne va pas forcément s'autoriser à faire, parce qu'on se dit, ben, je ne suis pas un tel, je ne peux pas forcément m'autoriser à... Mais si, tu peux. Moi, je me suis retrouvé, à, justement, quand je stagnais un petit peu sur mon niveau en investissement, à aller côtoyer les meilleurs gestionnaires de fonds du monde, pour, et en les contactant d'une manière assez basique, pour leur demander de me mentorer, en allant en Finlande... toquer à la porte de Pasi Avia, qui dirige le fonds Kant chez Helsinki Capital Partner, pour finalement me rendre compte que
t'y c'est... T'es allé sur place
Ouais, et, je me suis retrouvé à fumer un cigare avec, avec le directeur de la banque et avec l'actionnaire majoritaire de la banque. Donc, et parce que tu vas vraiment catalyser, en fait, il faut accepter de casser les...
Ah mais personne ne fait ça. Enfin, je pense que tu as conscience que la quasi-totalité des particuliers n'auraient pas
c'est
la, ce genre
c'est
de prise d'initiative.
C'est message sur LinkedIn. Et tout le monde peut l'écrire, ce message, sur LinkedIn. Et ensuite, d'avoir l'audace de faire ça. Et moi, ce côté-là, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi. Et tu vois, là, je déménage sur un coup de tête dans un pays que je ne connais pas parce que le régime fiscal me semble attractif et parce que quand je suis allé sur place, j'ai vu qu'il y avait plein de plaques de monégasques, etc., alors que personne n'entend parler de ce pays en Europe. Et je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a des structures de détention super optimisées. Il y a pas mal de plaques de monégasques et de suisses qui sont ici. On est en Europe. Personne sur Internet est dans ce pays. Quand je tape sur Google comment ouvrir une société dans ce pays, c'est complexe. Il y a un truc marrant. Et j'y vais. Et j'essaie de break the pattern. Tu vois. J'essaie vraiment de casser le... on nous propose un chemin de vie qui est tout tracé. Comment tu fais... Enfin, et vraiment, l'image que j'ai, c'est finalement, tu vas à l'aéroport, tu as prévu de prendre un avion pour une telle destination. Et finalement, sur un coup de tête, tu pars complètement sur la direction opposée pour essayer de casser le pattern et de créer quelque chose de différent.
Ouais, donc c'est de... L'idée, c'est de ne pas suivre... si je te suis bien, la voie par défaut qui peut nous être, on va dire, même pas proposée, parce que de base, l'entrepreneuriat, c'est même pas la voie qui nous est proposée de base, hein, c'est plutôt le salariat, c'est voilà, moi j'en parle souvent dans mes contenus, j'étais bon au lycée, on m'a envoyé en prépa, t'es bon en prépa, tu vas en grande école, t'es bon en grande école, tu vas dans le conseil ou en banque, et puis après, tu te retrouves, tu vois, à 25, puis 30, puis 35 ans, et tu regardes autour de toi et tu te dis, mais en fait, aucune des situations dans lesquelles je me suis retrouvé dans ma vie n'est arrivée après une décision que j'ai prise moi-même, avec une réflexion que j'ai eue moi-même, un travail d'introspection que j'ai fait moi-même, ça a toujours été conseillé par les autres. Et parfois, c'est une bonne voie. La voie par défaut n'est pas forcément une mauvaise voie. Mais il faut avoir en tête que c'est pas forcément la bonne, ou c'est même jamais l'unique.
Confucius dit dans cette idée forte justement que en gros qu'un homme a deux vies, et que sa seconde vie commence quand il comprend qu'il n'en a qu'une. Moi, ma seconde vie a commencé quand je suis devenu libre, et je suis devenu libre à partir du moment où j'ai fait le choix de devenir entrepreneur en prenant un aller simple pour Tallinn et en créant ma boîte là-bas.
Hello, c'est Charlie. Ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité. Donc, si tu veux écouter la totalité de l'échange, tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée. Au passage, pense à mettre 5 étoiles au podcast s'il te plaît. Ça compte énormément pour moi et ça m'aide à développer le podcast. Je te remercie d'avance et te dis à très vite pour un prochain épisode. À plus !